VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel du mardi 28 août 2018. Abdourahman Dia, la présentation, voici les titres. Une attaque attribuée à des présumés terroristes fait plusieurs victimes dans l'est du Burkina Faso.
L'intensité ou la régularité avec laquelle les attaques se sont répétées au niveau donc de la région de l'Est, c'est une nouvelle situation qui est plus ou moins préoccupante.
Ouverture à la CPI de la dernière phase du procès de l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar accepte finalement de signer l'accord de paix après l'avoir rejeté plus tôt. Les États-Unis récusent la compétence de la Cour internationale de justice dans la procédure engagée par l'Iran concernant les sanctions américaines. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Bienvenue à tous. 36 personnes sont mortes au Niger dans des inondations depuis le début de la saison des pluies en juin, selon un bilan communiqué par les Nations Unies ce mardi. À la date du 27 août, le bilan est de 130 468 personnes sinistrées, soit 18 140 ménages dans le pays, a précisé le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey dans son bulletin. Les eaux ont également détruit plus de 7000 habitations et quelques 8000 hectares de culture. Également, plus de 31 000 têtes de bétail ont été décimées, indique OCHA. Le nord du pays est particulièrement affecté. Les électeurs maliens seront convoqués pour des élections législatives à deux tours les dimanches 28 octobre et 18 novembre. L'annonce du gouvernement intervient deux semaines après une présidentielle remportée par le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, dont le résultat est toujours contesté par l'opposition. 7 soldats burkinabés ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans l'est du pays. Ils se rendaient en renfort dans une localité où des assaillants avaient attaqué une gendarmerie. Le point avec Lamine Traoré.
Au moins 7 militaires et gendarmes ont été tués ce mardi dans l'est du pays, selon un communiqué du gouvernement. Selon le ministère de la Sécurité, la gendarmerie de Pama, chef-lieu de la province de la Kompianga, dans l'est, a été attaquée tôt ce mardi par un groupe d'assaillants armés, non encore identifiés. Des éléments de garde ont pu mettre en déroute les assaillants et de circonscrire les dégâts. Le véhicule des forces de défense et de sécurité de Fadangourma, chef-lieu de la région, appelé en renfort, a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Fadangourma. Le bilan provisoire élevé en mi-journée, selon le gouvernement, fait état de 7 agents des forces de défense et de sécurité tués et 6 blessés, dont 2 grièvement. Les attaques deviennent récurrentes au Burkina Faso. Rien que ce seul mois d'août, près d'une quinzaine de personnes, la plupart des soldats, ont été tués. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, une collégienne enlevée par Boko Haram en février avec une centaine de ses camarades dans le nord du pays, a appelé les autorités à obtenir sa libération. C'est ce qu'ont rapporté ce mardi des médias nigérians, citant un enregistrement présumé de la seule otage du groupe encore détenu par les islamistes armés. Ouverture à la CPI de la dernière phase du procès de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. L'accusation a dressé un tableau des exactions présumées commises sous ses ordres en 2002-2003 en Ituri. Celui qui était surnommé Terminator doit répondre de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nathalie Barge.
Les preuves ont montré, au-delà de tout doute raisonnable, que Bosco Ntaganda est vraiment coupable des crimes dont il est accusé, a dit la procureure Fatou Bensouda, estimant qu'il a joué un rôle central dans la planification des opérations de l'Union des Patriotes Congolais et de son bras armé, les Forces Patriotiques pour la Libération du Congo. Selon les témoignages, l'ex-chef de guerre a utilisé des enfants soldats, fait des filles des esclaves sexuels et lancé des attaques contre des civils sur des bases ethniques. Ntaganda est accusé d'avoir mené en 2002 une attaque au village de Mongwalou, proche d'une mine d'or, qui avait fait au moins 200 morts. Il était recherché et s'est rendu de lui-même en 2013 pour demander son transfèrement à la Cour pénale internationale. Son jugement sera très suivi après l'acquittement par la Chambre d'appel de la CPI du Congolais Jean-Pierre Bemba, qui avait été condamné pour des crimes commis par ses troupes en Centrafrique.
Au Kenya, la vice-présidente de la Cour suprême a été arrêtée aujourd'hui. Philomena Mouili est soupçonnée d'enrichissement personnel illégal. Elle faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017, une décision qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre de la même année, boycottée par l'opposition et remportée par le président Kenyatta. La première ministre britannique s'est engagée aujourd'hui pour un nouveau partenariat du Royaume-Uni avec l'Afrique. Theresa May veut que son pays devienne le premier investisseur occidental pour compenser les pertes économiques attendues du Brexit. Les précisions de Jean-Roger Bion.
D'ici 2022, je veux que le Royaume-Uni devienne le premier investisseur des pays du G7 en Afrique, a déclaré Mme May dans un discours prononcé au Cap, en Afrique du Sud, première étape de sa toute première tournée africaine. Elle a annoncé dans la foulée une enveloppe de 5 milliards de dollars d'investissement dans les économies africaines. Une réunion pour l'investissement en Afrique est d'ailleurs programmée pour l'année prochaine à Londres. La chef du gouvernement britannique a également souligné l'importance des enjeux sécuritaires. Theresa May s'est entretenue avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, avec lequel elle a signé un accord commercial. Elle a fait savoir qu'elle soutenait le programme de réforme agraire de l'Afrique du Sud, à condition qu'il soit réalisé dans la légalité. Madame May a profité de son passage au Cap pour présenter aux Sud-Africains la cloche récemment retrouvée du navire britannique SS Mendy, qui a fait naufrage en 1917 dans la Manche avec 600 Noirs qui partaient pour le front en France. Theresa May doit mettre le cap mercredi sur le Nigeria où elle rencontrera le président Muhammadu Buhari. Jeudi au Kenya, elle s'entretiendra avec le président Uhuru Kenyatta.
Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a finalement accepté de signer l'accord de paix avec le gouvernement destiné à mettre un terme à la guerre civile au Soudan du Sud, selon un médiateur soudanais. Plus tôt dans la journée, Riek Machar avait refusé de signer l'accord en exigeant que les réserves de l'opposition y soient intégrées, avait indiqué le médiateur, le ministre des Affaires étrangères soudanais Al-Dirdiri Ahmed, dont le pays parraine les pourparlers de paix au Soudan du Sud.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
10 migrants impliqués en juillet dans un franchissement massif de la clôture entre le Maroc et la ville espagnole de Ceuta ont été arrêtés aujourd'hui. Ces 10 migrants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés au centre d'accueil pour immigrés de la ville sous administration espagnole, selon une porte-parole de la garde civile. Ils sont accusés de violence contre les forces de sécurité, de coups et blessures et d'associations de malfaiteurs. Plus de 600 migrants avaient franchi ce jour-là la clôture entre le Maroc et Ceuta. En Grèce, la police a annoncé le démantèlement d'un réseau criminel d'aide à l'immigration irrégulière impliquant 30 membres d'une ONG. Trois des suspects, deux ressortissants étrangers et un grec, ont été arrêtés, a précisé la police dans un communiqué. Au total, 30 personnes seraient impliquées. Il s'agit de 6 grecs et de 24 ressortissants étrangers. Bataille judiciaire autour des sanctions américaines contre l'Iran. La République islamique cherche à obtenir la levée des sanctions économiques réimposées par le président Donald Trump. Les États-Unis ont réfuté aujourd'hui la compétence de la Cour internationale de justice dans la procédure. Clermont Hengebourg.
Washington s'oppose vivement à la requête de l'Iran. La délégation américaine dépêchée sur place à La Haye défend que la Cour internationale de justice ne devrait même pas perdre son temps à étudier cette procédure, car pour eux, ce n'est pas du ressort de la Cour onusienne de porter un jugement dans le différend entre les deux pays. L'Iran affirme que les sanctions sont des violations flagrantes du traité américano-iranien de 1955, qui prévoit des relations amicales et encourage les échanges commerciaux, même si l'Iran et les États-Unis n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980. Les sanctions américaines ciblent les transactions financières, les importations de matières premières et les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Les audiences doivent se poursuivre jusqu'à jeudi.
Les députés iraniens ont signifié leur profonde insatisfaction à Hassan Rouhani face aux difficultés économiques et sociales du pays. Le président a tenté de s'expliquer devant le Parlement qu'il a convoqué. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a annoncé ce mardi la fin de la suspension des exercices militaires alliés sur la péninsule coréenne. Il s'agit, selon lui, d'un geste de bonne volonté après la rencontre de Donald Trump et Kim Jong-un. Par ailleurs, le Japon estime que la Corée du Nord continue de représenter une menace grave et imminente. Dans son rapport annuel, le ministère japonais de la Défense reste méfiant malgré les avancées diplomatiques de ces derniers mois. Pour Tokyo, il n'y a pas de changement dans notre constat de la menace posée par les armes nucléaires et les missiles nord-coréens à la sécurité du Japon. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manelakiza qui nous présente la Minute Éco.
Au Rwanda, le tourisme a généré 438 millions de dollars en 2017. Par rapport à l'année précédente, Kigali a enregistré une augmentation de 34 millions de dollars. La hausse devrait atteindre 74 millions de dollars en 2018, selon les prévisions. La compagnie nationale rwandaise dessert actuellement plusieurs destinations et améliore l'accessibilité du pays. L'accord de sponsoring avec l'équipe de football anglaise Arsenal, le FC, permettra de rehausser de manière significative l'image du pays. Jusque-là, l'attraction touristique a atteint plus de 173 millions de personnes. Londres veut devenir le premier investisseur occidental en Afrique d'ici 2022. La première ministre britannique Theresa May a annoncé plus de 4 milliards d'euros d'investissement dans les économies africaines. Elle a débuté sa tournée ce mardi en Afrique du Sud. Elle sera au Nigeria mercredi et à Nairobi jeudi. La chancelière allemande Angela Merkel entame également une tournée de 3 jours en Afrique. Elle arrive mercredi à Dakar et poursuivra sa visite au Ghana et au Nigeria. Berlin s'intéresse actuellement à une poignée de grandes économies africaines. L'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie bénéficient 89% des 10 milliards que l'Allemagne injecte chaque année en Afrique. La chancelière Merkel vise à élargir cette présence.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
De nouveau qualifié pour les quarts de finale en Ligue africaine des champions.
Et oui, la sixième et dernière journée se dispute aujourd'hui. Dans le groupe B, c'est finalement l'entente sétif qui accompagnera le TP Mazembe en quart de finale. L'Aigle Noir a validé son billet en s'imposant 2-1 sur le terrain de ses compatriotes du MC Alger. Un résultat qui rend anecdotique le match nul 1-1 entre Mazembe et le Difa El Jadida. Mission accomplie pour Primero de Agosto dans le groupe D. Maître de leur destin et évoluant à domicile, les Angolais ont dominé Mbabane 2-1, suffisant pour rejoindre l'étoile du Sahel déjà qualifiée en quart de finale.
Éliminatoire de la CAN 2019, la liste du Bénin est enfin disponible.
Oui, c'est la première sélection de Michel Doussouyé. Depuis son retour au Bénin comme sélectionneur des écureuils, il a convoqué 21 joueurs parmi lesquels le capitaine Cessegnon, les attaquants Steve Mounier et Michael Poté. Le Bénin compte 3 points après son succès 1-0 sur la Gambie lors de la première journée des éliminatoires. Les écureuils voudront enchaîner le 9 septembre face aux éperviers du Togo, dominés par les Fenech d'Algérie lors de leur première sortie.
Au Maroc, les Lions de l'Atlas se feront face au Malawi sans Benassia.
Tout à fait, le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a fait appel à 25 joueurs pour la réception du Malawi le 8 septembre. Par rapport aux 23 Lions de l'Atlas du Mondial 2018, on note l'absence du capitaine Mehdi Benarsia. En revanche, plusieurs retours sont à signaler avec le néo-défenseur de Dijon, Naïef Aguerk, le milieu de terrain Nousser Mezaroui, pré-convoqué pour le Mondial, et des attaquants Achraf Benchafti et Yacine Bamou.
Transfert pour terminer, Seydou Doumbia a rejoint Gérone.
L'attaquant international ivoirien arrivé libre a signé à Gérone pour 3 saisons, d'après le club catalan qui évolue en première division du championnat d'Espagne. Il avait été prêté par l'AS Rome au Sporting Portugal l'an dernier. Arrivé à Rome en janvier 2015, Doumbia ne s'y est jamais imposé et n'a disputé que 14 matchs sous le maillot Diallo Rosso, inscrivant 2 buts. L'international aux 37 sélections avec la Côte d'Ivoire a ensuite été prêté au CSKA Moscou, à Newcastle, à Bale, puis au Sporting Portugal.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Diab, toujours en votre compagnie. On passe maintenant au dossier du jour. Nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso. 7 militaires burkinabés ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par l'explosion d'un engin artisanal en allant renforcer un poste de gendarmerie attaqué dans l'est du pays. Ces dernières semaines, ces attaques ne se produisent plus que seulement dans le nord, mais aussi dans le centre, le sud et l'est du pays. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou le chercheur Jacob Yarabachola. Il est spécialiste des questions de terrorisme.
L'intensité ou la régularité avec laquelle les attaques se sont répétées au niveau donc de la région de l'Est, c'est une nouvelle situation qui est plus ou moins préoccupante. C'est des attaques donc des postes des forêts, l'attaque de postes de gendarmerie, de police et la pose des mines, voilà, sur lesquelles justement les engins donc des forces de défense et de sécurité sautent régulièrement.
Est-ce que l'autorité arrive à suivre?
Tout ce qu'on observe actuellement nous laisse croire que l'autorité est prise de court, parce que quand vous analysez un peu comment les choses se passent, les terroristes préparent en amont toute l'attaque. Mais quand il s'agit donc de riposter, il me semble que les autorités ne prennent pas aussi toutes les mesures. Par exemple, les terroristes, avant d'attaquer un poste, posent donc des engins de ce type sur le parcours éventuel, le parcours possible donc des forces de défense, et sachant qu'ils vont sauter dessus. Donc, alors que quand ils veulent riposter, ils ne prennent aucune précaution, à mon avis, sur ces types donc de situations. Il me semble qu'ils n'y pensent même pas régulièrement que leur chemin pourrait être miné.
Alors, ceux qui mènent ces attaques dans l'est du pays, d'où viennent-ils?
On sait que régulièrement, le nord, le Sahel, était justement attaqué. Et il y avait aussi donc des attaques sporadiques dans l'est. Maintenant, on a constaté que les attaques au niveau donc du Sahel ont baissé d'intensité et à l'inverse, justement, dans l'est du pays, on reprend le plus belle. Je pense que ce sont les actions conjuguées de l'État par rapport à la zone donc du Sahel qui ont découragé justement les groupes qui sont là-bas et ont en même temps animé leur initiative par rapport à d'autres donc localités. Donc, peut-être voir donc les liens entre donc les groupes au nord du pays et les groupes à l'est du pays. De toute façon, il y a une grosse synergie qui est là et qui a un projet commun, et c'est à ce projet commun donc de ces terroristes auxquels il faut s'attaquer.
C'était Jacob Yarabachola, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Dans la banlieue dakaroise, les jeunes et adolescents sont souvent dans la délinquance juvénile à cause notamment de la pauvreté. Agressions, drogues, entre autres, ces jeunes touchent à tout et sont confrontés à tous les vices. Le cannabis, communément appelé chanvre indien, est la drogue la plus accessible et la plus utilisée par ces jeunes. Un reportage à Dakar de notre correspondant Seydina Bagay.
Nous sommes au populaire quartier de Khayale, dans la banlieue de Dakar. Dans le calme plat de la nuit, un groupe de jeunes se partage un joint de chanvre indien enveloppé dans un bout de papier. Pour eux, ce moment est unique. Sous couvert de l'anonymat, il se confesse au micro de VOA Afrique.
Fumer du chanvre indien me permet de me libérer de tous mes soucis pendant un certain temps. J'ai commencé à prendre ça au collège parce qu'il y avait un grand qui m'en vendait par petites quantités et finalement je m'y suis habitué. Et avec mes amis, on se cotise pour avoir un joint à nous partager. On prend notre dose et on ne dérange personne.
Pour avoir leur dose, ces adolescents se tournent vers leur fournisseur, lui aussi relativement jeune. Il explique les détails de son business.
Je suis passé par la même galère que ces jeunes avant de devenir revendeur. Il y avait nos grands qui fumaient du chanvre juste derrière notre école. Et en les fréquentant, on a chopé le virus. Et depuis, on est dans le business du chanvre. Au Sénégal, il y a de rares personnes qui cultivent du chanvre indien. La plupart du temps, on s'approvisionne depuis la Gambie, le Mali et même la Casamance.
Malgré ces ravages, le chanvre indien est plus que jamais utilisé par les adolescents. La plupart du temps, ils le font au péril de leur vie.
Je suis une fois tombé malade à cause du chanvre indien et je toussais tout le temps. C'est tout était accompagné de sang et les gens me suppliaient d'arrêter l'usage du chanvre indien.
Le docteur Idriss Abba, psychiatre addictologue et coordonnateur technique du centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar.
Beaucoup de jeunes sont deviennent du fait de la consommation incontrôlée, deviennent dépendants. L'autre conséquence aussi, c'est le problème bronchopulmonaire, des problèmes de comportement aussi. Et à la longue aussi, ça impacte aussi sur les fonctions cognitives. Donc des troubles psychiatriques peuvent apparaître. Conséquences sur le plan social, là où il y a consommation de drogue, il y a trafic, et là où il y a trafic, il y a aussi violence.
Au Sénégal, le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar est la seule structure capable de venir en aide à ces jeunes qui utilisent la drogue.
Au niveau des services de proximité, que ce soit au niveau des districts sanitaires, que ce soit au niveau des hôpitaux régionaux, former le personnel local de capacité pour qu'il puisse prendre en charge les problèmes liés à la consommation de drogue, au même titre que les autres problèmes de santé, parce que nous sommes des médecins, on ne peut pas former partout et mettre partout des spécialistes, mais on peut aussi capaciter les gens. Et ça aussi, ça participe de la lutte contre la discrimination.
La consommation de drogue, plus particulièrement celle du chanvre indien, demeure importante chez les adolescents. Loin des structures de prise en charge et sans contrôle parental, ces jeunes demeurent prisonniers de leur addiction. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur le drame des migrants. Pourquoi beaucoup d'Africains continuent-ils de se tourner vers la migration clandestine et de mettre leur vie en péril en effectuant la dangereuse traversée du désert et de la mer Méditerranée pour tenter de gagner l'Europe? Pourquoi certains originaires de ces pays, pourtant en paix comme le Sénégal, empruntent-ils également ces routes migratoires? Et que font les pays africains pour retenir leurs citoyens? C'est un Washington Forum spécial ce jeudi à 19h30 en collaboration avec notre télépartenaire Box Télévision à Dakar.
En RDC, le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola fait état de 75 morts dans l'est du pays. Comment Ebola affecte-t-elle la vie et les relations des habitants de Beni, une zone congolaise frontalière à la fois avec la province de l'Ituri, avec l'Ouganda et le Rwanda? Edi Sango a joint sur place l'éditeur du journal Les Coulisses Nikkeze, Kibel Beloka.
Les pratiques d'hygiène observées notamment dans le lavage des mains, pratiquement dans à l'entrée de chaque magasin, boutique, chaque bureau, il y a un seau d'eau avec du savon désinfectant pour se laver les mains. Cette attitude est observée et commence même à prendre corps dans les esprits de la population ici. Il y a ceux d'ailleurs qui se promènent avec des flacons de désinfectants. Pour se laver les mains chaque fois qu'ils tiennent le poignet. Les gens ne se saluent plus. Même au niveau de l'église, il est interdit de se saluer par le signe de la paix qui est l'échange de mains.
Quel impact cette méfiance que les gens ont les uns les autres dans les relations, par exemple en famille, à l'école, au travail?
Il se pose aussi un problème au niveau de la rentrée scolaire, parce que En réalité, la rentrée scolaire, c'est pour lundi 3 septembre. Et cette rentrée scolaire devra se passer normalement comme à travers toute l'étendue du pays. Bon, là, effectivement, il y a des grincements dedans parce qu'il est difficile pour les élèves de ne pas se côtoyer, de ne pas se toucher. Vous savez, ici, il y a des classes où on s'assoit 3-4 par banc, alors ça pose un sérieux problème.
Les parents ont-ils de la réticence à envoyer leurs enfants à l'école parce que c'est lundi, comme tu l'as dit, la rentrée scolaire?
On ne peut pas reculer la rentrée parce qu'on ne sait pas à quel moment, pendant combien de temps vont durer les traitements pour cette maladie. Donc, si on décrète un mois, six mois, cela signifie qu'on décrète l'année blanche. Donc, il faut prendre d'autres dispositions pour que les élèves étudient. Mais ce n'est pas facile, il y a assez de réticences du côté des parents. Les habitudes ont la tête dure, on continue à vendre. Ce qui est plus observé, c'est la non-salutation, les gens ne se saluent plus par la main. Ça, c'est ce qui est plus observé. Mais pour les autres habitudes, ça continue un peu. Vous savez, ce n'est pas facile.
Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il au niveau de la frontière? Parce que Béni, comme tu l'as dit, est frontalière à 3 pays.
Oui, au niveau de la frontière, notamment la frontière avec l'Ouganda du côté Kasindi, l'OMS a installé un centre de contrôle pour les populations qui traversent.
C'était Nikes Kibel Beloka, l'éditeur du journal Les Coulisses.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Tchad, poursuite du débat à N'Djamena sur la nouvelle constitution consacrant la 4e République, le président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, Max Kemkoe, lance une pétition politique et citoyenne pour exiger le retrait de cette constitution et les ordonnances subséquentes, une initiative soutenue par plusieurs acteurs politiques. Le reportage à N'Djamena d'André Konmajingar.
Entrée en vigueur le 4 mai 2018, cette nouvelle constitution, selon le président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, menace la vie juridique et le fonctionnement des associations, des organisations syndicales, de presse et des partis politiques. Pour Max Kemkoe, signer cette pétition, c'est rejeter cette loi fondamentale qui oppose les Tchadiens dans leur diversité culturelle.
Cette constitution et les ordonnances subséquentes constituent une atteinte au multipartisme, au système compétitif, au libre exercice des droits et libertés, base de la démocratie. C'est pourquoi cette pétition est une fois signée, sera accompagnée d'une requête conforme au protocole et déposée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que devant la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, en plus d'une mise en garde spéciale qui sera adressée à la France et à l'Union européenne, qui continue à fermer les yeux sur les violations massives des droits humains au Tchad pendant que tout est mis en œuvre ailleurs, dans d'autres pays africains, pour défendre et préserver la démocratie, les droits et les libertés.
Pour le promoteur du mouvement, les transformateurs, Dr. Succès Masra, cette initiative citoyenne rejoint sa mise en garde contre les hautes autorités du pays, car, dit-il, on ne peut écrire une constitution pour un mandat électif.
Peut-on sérieusement défendre une constitution dans un pays qui a une espérance de vie de 45 ans, qui a 70% de sa population et a moins de 40 ans, empêcher à cette partie de la population de participer aux instances stratégiques et entériner cela dans la constitution? Peut-on sérieusement entériner dans une constitution que finalement on concentre les pouvoirs entre les mains de cet individu?
François Ndiékombé, un jeune Tchadien qui vient de lancer son parti politique dénommé Union Sacrée pour la République, a déclaré qu'il sera le premier à signer cette pétition, quand bien même que son parti est le premier à être légalisé sous la 4e République.
Il faut donc non seulement annuler la constitution, mais remettre en cause complètement le Forum National Inclusif. Ça n'a pas de sens.
Béral Mbaïkoubou, député à l'Assemblée nationale, soutient également cette initiative, car pour lui, cette constitution est une somme de contradictions totales.
Au préambule de la constitution, on se propose proclame être irrévocablement laïque et à l'intérieur de la même constitution, on consacre le serment confessionnel. C'est une monarchie élective qui est érigée et de ce fait-là, je pense que c'est une constitution que nous devrions combattre.
André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Cheikh Thiérot. Présentation Abdourahman Dia, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry,
92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.